À la fin du XIXe siècle, un grand savant, Marcelin Berthelot, qui était également ministre de l'Éducation nationale, membre de l'Académie des sciences, chimiste de formation, avait fait un grand discours à une assemblée de chimistes dans lequel il disait « Dans les dizaines d'années qui viennent, on n'aura plus besoin de champs, on n'aura plus besoin d'animaux, on fabriquera dans des usines, grâce à la chimie, des petites plaquettes de produits azotés, de produits sucrés, de graisse, à partir de laquelle on fabriqua nos aliments et on n'aura donc plus besoin de champs. Tout se fera grâce à la chimie, grâce aux chimistes, nos aliments se fabriqueront dans des usines. »
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Des voitures volantes, le bug de l'an 2000, des gélules en guise de repas, des robots partout, la fin du monde. Dans l'histoire de notre humanité, le futur a toujours tantôt connoté un joyeux progrès lancé vers l'avenir, tantôt la tétanisante peur de l'inconnu. Utopie ou scénario catastrophe, comment avoir aujourd'hui une vision réaliste et apaisée de l'avenir? Sur quels critères imaginer et préparer la vie de demain sans se fourvoyer dans des délires fictionnels absurdes? Et dans tout ça, comment se nourrit-on demain? En matière d'alimentation, nos prédictions du futur ne font pas franchement rêver. Dans l'imaginaire collectif, les assiettes à venir sont souvent mornes, la technocratie nous fait gober des gélules et la convivialité semble s'être évaporée dans le règne des machines. Est-ce pourtant vraiment comme cela que notre humanité s'apprête à se nourrir? Les exercices d'anticipation sont souvent vains et servent rarement à plus qu'à nous divertir à travers des visions stéréotypées du futur. Utilisons plutôt ici le futur comme une astuce rhétorique pour nous interroger sur le présent. En quoi imaginer notre alimentation à venir raconte-t-elle des choses sur nos manières de manger aujourd'hui, nos angoisses et nos fantasmes culinaires? Notre vision futuriste de la bouffe a-t-elle toujours été la même au cours de l'histoire? Et d'abord, parler de nourriture de demain, ne serait-ce pas au fond déjà aborder les défis d'aujourd'hui si l'on veut continuer à pouvoir nourrir toute la planète? Longtemps, nos représentations d'une alimentation du futur ont rimé avec des images heureuses, d'abondance, de nourriture pour toutes et tous. La projection la plus répandue était pleine d'espoir. C'était celle du pays de Cocagne, un paradis terrestre fantasmé dans l'imaginaire de bon nombre de cultures européennes. Une contrée généreuse dans laquelle la nature foisonnante dispense les habitants de travail et met tout le monde à l'abri des famines et des guerres. C'est ainsi que l'humanité a un jour imaginé l'alimentation du futur, quelque part entre le XIIe siècle et le XIVe siècle, comme on l'a vu dans le précédent épisode de Bouffon. Puis, les visions de l'alimentation du futur ont pris diverses formes au cours de l'histoire, entre progrès technologique et réduction du temps passé en cuisine, entre plats en gélules et règne des machines. Aujourd'hui, le défi d'une alimentation du futur est plus pragmatique. Il est le reflet des préoccupations de notre époque. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette planète. Et la question est de savoir comment nourrir une population mondiale qui devrait avoisiner les 10 milliards d'êtres humains en 2050. La problématique est brûlante. Démographes, agronomes, économistes, sociologues, responsables politiques, agriculteurs et agricultrices, personne n'a la réponse idéale, durable et duplicable dès à présent. Pourtant, plus que jamais, l'enjeu presse. À l'été 2007, des émeutes de la faim et une flambée des prix agricoles ont inscrit pour de bon l'alimentation mondiale à l'agenda politique et économique des institutions internationales, comme le fait remarquer Pierre Feillet, l'un de nos invités du jour. Une piste fait aujourd'hui consensus. Manger moins de viande permettrait de 1. Consommer en polluant moins, 2. Mieux répartir la nourriture entre tous les humains, car produire une calorie de viande consomme actuellement 10 calories de céréales. Alors, autant privilégier les céréales directement. Dans cet épisode, j'ai discuté avec Aurélie Zunino du programme « Je mange pour le futur » et Pierre Feillet, directeur de recherche honoraire à l'INRA. On commence avec Aurélie Zunino, que j'ai rejoint dans un café, pour qu'elle me parle de l'importance de convaincre les jeunes générations qu'un changement d'alimentation est nécessaire et que le chemin pour y parvenir peut être joyeux.
Aurélie Junino, je suis coordinatrice de la chaire ANCA, qui est une chaire partenariale d'AgroParisTech, qui entend sensibiliser à l'alimentation durable. Et on développe donc des programmes qui se veulent innovants et basés sur la science.
Aurélie Junino nous explique en quoi consiste « Je mange pour le futur », le programme qu'elle a co-construit chez AgroParisTech, sous la forme d'un personnage fictif, Sacha, jeune femme que l'on peut suivre sur Instagram.
Je mange pour le futur, c'est un programme de sensibilisation qu'on a développé à destination des 18-35 ans, qu'on a diffusé intégralement sur Instagram, le réseau social. Et c'est un projet qui avait un double objectif. À la fois, il avait pour but de sensibiliser, donc de vulgariser des savoirs, de vraiment comprendre qu'est-ce qu'une alimentation durable et quels sont les enjeux sous-jacents. Et puis aussi de donner vraiment des clés de comment j'agis concrètement au quotidien quand je dois me faire à manger. Et c'est un projet qui avait la particularité de suivre en fait une influenceuse fictive, donc qui est Sacha, qui est une jeune femme de 26 ans, qui est un peu à l'image de cette génération des 18-35 ans. Elle est assez préoccupée par les enjeux climatiques. Elle aime bien manger, c'est une bonne vivante. Et elle décide donc de mener son enquête pour adopter une alimentation plus durable. Elle a décidé qu'elle allait agir via son assiette. Et donc, elle va à la rencontre de différents acteurs, des scientifiques, des personnes qui font, produisent notre alimentation. Et elle partage aussi ses recettes, ses astuces. Et on la voit vraiment dans une enquête progresser. Elle partage aussi ses réussites, mais aussi ses moments un peu d'échec dans cette transition alimentaire.
Oui, c'est un personnage qui est très sympathique. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous avez fait le choix de dessiner, de représenter ce personnage fictif grâce à une illustratrice donc avec laquelle vous avez travaillé. Et donc, il y a avec Sacha ce côté personnage, un peu la bonne copine, ou alors personnage en qui on pourrait se reconnaître aussi, sans forcément nous accoler un visage réel. Et puis oui, comme tu dis, elle partage ses doutes, elle partage ses essais, ses interrogations, et il y a quelque chose de très vivant dans ce programme. Est-ce que tu peux nous expliquer comment donc ce programme est né exactement ? Parce que vous auriez pu passer par quelque chose de beaucoup plus conventionnel, de beaucoup plus traditionnel. Comment vous vous êtes dit, bon là on va incarner les choses et puis on va investir un réseau social comme Instagram ?
On avait envie déjà de faire un programme qui soit ludique, non injonctif, non moralisateur. On a à la fois travaillé avec un comité d'experts qui nous a vraiment aidé à définir les messages pédagogiques, mais on a aussi avant tout travaillé avec la cible des 18-35 ans. On a mené des ateliers de co-construction et justement on s'est vraiment servi de leurs freins et de leur motivation pour un peu créer ce personnage de Sacha, pour vraiment ça soit un peu le portrait robot de cette génération, qu'elle puisse un peu incarner tous les freins qu'ils peuvent rencontrer quand ils essayent de manger d'une manière plus durable. Donc, savoir, ok, je veux bien manger plus durablement, mais est-ce que ça va me coûter plus cher ? Est-ce que je vais avoir des carences ? Voilà, toutes les questions qu'on peut se poser quand on veut notamment un peu plus végétaliser son alimentation. Et puis, on s'est effectivement entouré d'une équipe de créatifs, d'un scénariste qui nous a vraiment aidé aussi à donner vie à ce personnage et d'une illustratrice.
Du coup, il y a une idée de storytelling dans la démarche de Sacha. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le scénariste exactement ?
On avait envie d'avoir un personnage qui soit crédible, qui incarne cette génération des 18-35 ans. On sait que ces jeunes sont relativement préoccupés par les questions environnementales. Des dernières études du Crédoc avaient montré qu'ils plaçaient l'environnement en tête de leurs préoccupations devant le chômage, devant l'immigration. Mais on se rend compte que c'est une génération aussi qui est très consommatrice de produits aussi carnés. Donc l'idée, c'était vraiment de partir de toutes ces ambiguïtés de cette génération, d'avoir une forme de progrès. Donc, dans la première saison, on suivait vraiment pendant 12 semaines ce personnage qui commençait petit à petit à mener son enquête et à se faire un peu une idée de ce qu'est justement une alimentation plus durable.
Alors justement, parlons-en de cette alimentation plus durable. Le programme s'appelle « Je mange pour le futur ». Quels ont été les messages que vous avez identifiés en travaillant avec les chercheurs, les messages importants selon vous à mettre en avant auprès de cette jeune génération ?
C'est vrai qu'en tant que consommateur, on a une certaine action qu'on peut avoir à travers son assiette pour limiter à la fois son empreinte carbone et puis aussi avoir une alimentation qui se veut plus saine. Et l'un des premiers leviers qui est souvent identifié, c'est quand même de mieux rééquilibrer sa consommation de produits animaux et produits végétaux. À l'heure actuelle, en France, à peu près 65% des protéines alimentaires sont d'origine animale. Donc l'idée, c'est de réussir à un peu mieux rééquilibrer, de végétaliser aussi, on peut entendre ça, son assiette. Cependant, ce n'est pas forcément facile parce qu'on a des habitudes alimentaires qui sont bien ancrées et on compose souvent son assiette avec un morceau de viande qui prend une part prédominante. Donc ça, c'était un des messages principaux, de se tourner un petit peu plus vers des céréales, notamment des céréales complètes, mais aussi des légumineuses, de consommer davantage de légumes et de fruits. Il y a des études de l'INRA qui ont aussi montré qu'en adoptant une alimentation qui était un peu plus végétale, on pouvait réduire de 30% l'impact à l'échelle des ménages, l'impact carbone de notre alimentation. Donc, ce n'est pas négligeable quand on sait que les experts du GIEC nous disent que chaque tonne de CO2 compte pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Donc voilà le message principal qu'on a voulu faire passer, cette végétalisation, mais aussi cette idée de diversifier son alimentation. Il y a des études qui ont aussi montré que sur les, je crois, presque 6000 variétés de végétaux qui sont cultivées, il n'y en a que 9 qui représentent la plus grosse partie de la production alimentaire. Donc on retrouve le blé, le maïs, la canne à sucre. Et donc l'idée, c'est de se tourner vers d'autres aussi de céréales. Donc par exemple, dans le programme, on avait pu proposer une recette qui utilisait de l'orge perlée, de faire un risotto avec de l'orge perlée. C'est une recette qui a beaucoup plu, qui a été beaucoup testée par nos abonnés. Et donc voilà, c'était l'idée de se tourner vers d'autres céréales, les diversifier. Ça a des intérêts nutritionnels, mais aussi pour la biodiversité.
En discutant avec toi, je, en même temps que je t'écoutais, j'essaie de réfléchir à moi ce que j'aimais beaucoup manger quand j'étais plus jeune, donc quand j'étais plus autour de 18-20 que maintenant. Et je réalisais que finalement, dans cette alimentation qui est souvent vue comme conviviale, l'alimentation qui réunit quand on est avec ses amis et quand on est jeune, on pense aux burgers, aux tacos. En fait, on pense finalement à beaucoup de choses assez carnées. Est-ce que, de ton point de vue, les choses sont quand même en train de changer. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui va vers spontanément aussi plus d'assiettes plus végétales?
Alors, c'est un bilan qui est assez contrasté parce que, comme je disais, je crois qu'à les 18-24 ans, ils sont une grande majorité, 44%, à vouloir réduire leur consommation de viande. Ils ont des intentions très fortes. Mais après, dans les pratiques et notamment dans des situations de sociabilité, le passage à l'acte ne se fait pas toujours parce qu'il y a des freins qui sont bien identifiés. C'est vrai que dans les entretiens qu'on a pu faire justement avec les 18-35 ans, on se rend compte que parfois, l'alimentation plus végétale est vue un peu comme quelque chose de fade, qui va procurer moins de plaisir alimentaire. Et du coup, il y a un peu aussi toute une revalorisation un peu de cette image de la cuisine végétale qu'on a vraiment aussi essayé de faire passer à travers des recettes qui justement étaient faciles à réaliser, avec peu d'ingrédients et qui étaient très, très goûteuses. Donc oui, il y a un grand travail aussi sur l'image de cette alimentation, même si on ne prône pas de supprimer totalement la viande de son alimentation. Ça reste, je pense à l'avenir, quand on parle du futur de l'alimentation, peut-être que justement la viande restera un aliment qu'on consomme dans des moments un peu festifs, mais un petit peu moins banalisé qu'aujourd'hui.
Dernière question que j'avais à te poser, Aurélie, quel est le bilan, tu dirais, pour le moment de ce programme ?
Tout d'abord, on a réussi à toucher la cible, ce qui est une super bonne nouvelle. On a réussi à rassembler une communauté de presque de 13 000 personnes sur le compte. Donc, c'était vraiment un très bon résultat pour nous. Ce qu'on voulait aussi, c'était apporter des connaissances, mais aussi changer justement les perceptions que les personnes avaient de l'alimentation plus durable. Et on a pu mesurer les impacts de ce projet en menant en place une étude longitudinale dont on va bientôt publier les résultats. Mais on a pu voir que c'était quand même que le réseau social Instagram aussi était une bonne façon de sensibiliser pour apporter de la crédibilité sur ce sujet. Et on a réussi à interagir avec une cible qui était vraiment intéressée sur ce sujet. On a réussi à toucher une cible qui était aussi assez avertie au sujet. Maintenant, l'objet, c'est aussi d'aller chercher des personnes qui sont peut-être plus éloignées de ces enjeux sur la durabilité.
Et vous savez comment vous y prendre? C'est un peu toujours la question de sortir un petit peu de sa bulle.
L'éducation alimentaire est fondamentale, mais il y a aussi tout un travail aussi sur ce qu'on appelle les environnements alimentaires. Connaître et savoir qu'est-ce qu'une alimentation plus durable, c'est super, mais si en bas de chez soi, le supermarché n'a pas justement cette offre à un prix accessible aussi, ça ne peut pas fonctionner. Donc je pense qu'il y a un travail aussi multi-acteurs et de réussir à concilier un petit peu tous ces enjeux pour permettre justement que les individus puissent vraiment adopter une alimentation durable, parce que dans l'alimentation durable, il y a aussi cette question d'accessibilité économique qui est très crucial.
Alors, protéines végétales, céréales, viande faite à partir de bactéries protéinées, quelles sont les pistes concrètes pour nourrir le plus grand nombre dès demain? Pour en savoir plus, j'ai téléphoné à Pierre Feillet, directeur de recherche honoraire à l'INRA.
Je suis Pierre Feillet, un ancien chercheur de l'Institut national de la recherche agronomique où je travaillais surtout sur la génétique et la transformation des céréales. Puis ensuite, j'ai dirigé un département dans cet organisme. J'ai été directeur général de l'organisme. Je suis actuellement membre de deux académies, l'Académie d'agriculture, l'Académie des technologies. Et depuis une quinzaine d'années, je m'intéresse à l'équation en trois termes, alimentation, technologie et société, ce qui me conduit à réfléchir sur toute la chaîne du système alimentaire, dont l'objet final est de satisfaire nos estomacs, satisfaire notre plaisir de manger et d'éviter de nous intoxiquer en mangeant.
Pierre Feillet m'a aidé à faire un tour d'horizon des protéines alternatives et de ce que l'on en sait actuellement.
En France, nous consommons plutôt trop de protéines animales par rapport aux protéines végétales, mais que ce n'est pas le cas dans le reste du monde et que pour la majorité de la population mondiale, on ne mange pas assez de protéines et on ne mange pas assez de protéines animales. Ce qui, deuxième point, conduit la FAO à prévoir que dans les 10, 15, 20 ans à venir, on aura besoin de plus en plus de protéines pour nourrir les humains. Ceci pose alors la question de savoir d'où viendront ces protéines. Est-ce que elles viendront des protéines végétales? Est-ce qu'elles viendront des protéines animales? Ou est-ce que ce sera à partir d'autres sources qui ne seront ni animales ni végétales? Alors c'est cette question qui a intéressé pas mal de start-up qui, faisant le lien d'une part avec ce besoin en protéines, et d'autre part, notant qu'une certaine proportion des protéines que l'on consomme ont un effet négatif sur l'environnement, on cherchait de nouvelles solutions pour produire ces protéines. Alors ces solutions, elles sont multiples. L'une d'entre elles consiste à partir de protéines végétales, par exemple des protéines de soja, des protéines de pois, pour les transformer en des produits, des aliments qui ressembleraient à de la viande. Ce sont des simili-viandes, ce sont des hachés végétaux. Et ça existe depuis très longtemps, puisque les premiers produits de cette nature datent du milieu des années 70, 1975 aux États-Unis, à partir du soja. Et puis c'est redevenu à la mode depuis quelques années. On peut simplement noter que pour ces nouvelles protéines végétales de simili-viande, le prix de la protéine revient plus cher que celle de la viande et que la qualité nutritionnelle de ces protéines végétales demeure inférieure à celle des protéines animales. Alors ça, c'est le premier point, mais c'est un marché en pleine explosion avec néanmoins quelques ratés, quelques sociétés qui ont des problèmes. Le deuxième approche, beaucoup plus moderne, a été d'observer qu'il y avait beaucoup de protéines dans les insectes, et sans croire qu'on allait manger des insectes grillés pour se nourrir, un certain nombre d'innovateurs ont développé des procédés pour élever des larves d'insectes, extraire de ces larves, après que celles-ci aient été séchées, des farines protéinées, et de donner ces farines protéinées à nourrir à des animaux, plus particulièrement de la volaille ou des poissons, voire des animaux de compagnie. Et il se développe donc une nouvelle industrie de protéines d'insectes destinées à l'alimentation animale, qui, in fine, va d'ailleurs aboutir à nourrir les hommes, puisque les animaux nourris par ces protéines serviront à nourrir les hommes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont des cultures de tissus, de cellules souches de muscles qui se font dans des bioréacteurs, qui partant d'une cellule prélevée sur un animal, qui peut être une volaille, qui peut être un bovin, qui peut être un porc, va donner lieu à la production de fibres musculaires. Ces fibres vont être associées à du collagène, vont être aromatisées, vont être texturées, pour donner quelque chose qui va ressembler à de la viande, qui n'est pas de la viande, mais qui ressemble. Et il y a une multiplication dans le monde de start-up dans ce secteur, avec des investissements qui ont dépassé le milliard d'euros. Puis enfin, il y a une troisième voie qui est plus discrète, mais qui commence à voir le jour. C'est la mise en fermentation, toujours dans des bioréacteurs, de micro-organismes, des micro-champignons qui peuvent être des bactéries, qui peuvent être des levures. Donc, on a modifié le génome de manière à ce que ces micro-organismes soient capables de fabriquer des protéines animales comme celles qu'on trouve dans le lait ou les œufs, par exemple de la caséine du lait, avec lequel on pourra faire des fromages, ou de l'ovalbumine d'œuf, avec lequel on pourra faire des produits similaires aux produits à base d'œuf. Alors ça, c'est un secteur qu'on appelle la fermentation de précision. On a aussi en France un certain nombre de sociétés qui se développent dans ce domaine, et on peut citer tout particulièrement l'une d'entre elles, qui s'appelle Standing Ovation, qui s'est associée à la société Bell, qu'on connaît bien, pour la vache qui rit, pour que soient produits des caséines qui ne viennent non pas du lait des animaux, mais qui viennent de micro-organismes, et à partir desquels on pourrait faire des simili-fromages, qui seraient relativement très proches du fromage, mais sans partir de l'animal.
Donc là, vous venez de nous dresser finalement le paysage des protéines alternatives qui existent. Si l'on resitue ce que l'on vit actuellement en tant qu'humanité par rapport à notre vaste histoire, à quel moment peut-on dire que l'on se trouve exactement, sachant que l'on daterait donc la première transition alimentaire, ce qu'on va appeler la première transition alimentaire, à il y a donc 2 millions d'années, et donc au passage d'un régime végétarien, donc à l'époque celui de la cueillette, à un régime omnivore. Dans cette vaste histoire, donc, où nous situons-nous aujourd'hui ?
Alors en fait, l'humanité, elle a, au cours de son histoire, franchi toute une série d'étapes pour se nourrir. Vous le rappelez, il y a à peu près 1 million d'années, l'homme se nourrissait en allant chercher dans la nature des plantes comestibles, en chassant des animaux, des petits animaux. Il était même charognard d'ailleurs, et il récupérait ce que laissaient les gros carnivores qui étaient encore consommables. Donc c'était la période de la cueillette, de la chasse, à peu près 1 million d'années. Et puis 500 000 ans, le feu. Maîtrise du feu par les hommes. Alors ça, c'est un événement très important parce que ça va permettre de socialiser la société autour de son alimentation. On va faire cuire les aliments. Cela va avoir pour effet positif d'améliorer la qualité des produits consommés, d'ailleurs de détruire certaines toxines qu'on peut trouver dans les végétaux, pouvoir rendre plus digestibles des produits animaux et également de se retrouver ensemble pour se nourrir autour du feu, la tribu commence à vivre, la société commence à le construire, et on va jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, où le repas est toujours un événement important, tout du moins dans les pays latins. On va franchir un très grand nombre d'années et se trouver il y a à peu près 8000 ans, où les hommes en Mésopotamie vont découvrir qu'il est possible de récolter des graines, de les semer et de récolter davantage de graines que ce que l'on avait semé. C'est le début de l'agriculture. Et cette agriculture, avec les céréales notamment, va entraîner le passage de la nomadisation, qui était liée à la cueillette et à la chasse, à la sédentarisation. Les hommes s'installent, les villages se construisent, les chefs émergent, les religieux commencent à endoctriner, les intellectuels ont du temps pour réfléchir à ce qu'est l'homme et à son avenir. Tout ça grâce aux paysans qui représentent la très grande majorité des humains à l'époque, qui vont pouvoir nourrir ces chefs, ces soldats, ces religieux et ces intellectuels. La société se construit, les villages se construisent, les villes se construisent, le commerce se met en place. Autre étape, plus technique, c'est au moment des grandes découvertes, 14e, 15e siècle, découverte de l'Amérique, découverte de l'Asie lointaine, et les espèces végétales et les espèces animales franchissent les océans, et on va voir arriver dans notre Europe des plantes qu'on connaissait absolument pas, la pomme de terre, le haricot, la tomate, également les volailles, et ceci va enrichir le nombre de végétaux et d'animaux qui sont susceptibles de nous nourrir. On va encore franchir de très nombreux siècles pour arriver au début du 19e siècle, début du 20e siècle, fin du 19e, avec un certain nombre d'éléments majeurs, la fabrication de produits chimiques capables de lutter contre, de protéger les plantes contre leurs agresseurs et les maladies, fabrication par synthèse d'engrais, amélioration des semences pour les rendre plus productives et peut-être plus nutritives, éducation nettement améliorée des paysans, machines agricoles, et ceci va déboucher sur une intensification de la production. Et pour en résumer un chiffre, on produisait 10, 12 quintaux de blé à l'hectare dans les années 30, les années 40. Aujourd'hui, on en produit 70-75 quintaux, et on pourrait faire des mêmes bilans pour la production de lait par une vache, la production d'œufs par une volaille. Et donc, on est passé dans une agriculture intensive dont on se rend compte aujourd'hui qu'elle pose des problèmes environnementaux, et donc on est à la recherche d'une évolution de cette agriculture qui ne se préoccupait pas trop de ses effets secondaires sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air, donc une agriculture plus protectrice de l'environnement qu'on appelle l'agroécologie. Et puis tout récemment est arrivé encore un nouveau progrès technique avec les OGM, cette technique de génie génétique qui permet de transférer des gènes d'une espèce à une autre, ce qui n'était pas possible de manière naturelle, et allié à donc l'introduction de nouvelles propriétés aux plantes, allié à la maîtrise du numérique et de ce qu'on appelle l'agriculture de précision, on a abouti aujourd'hui à une agriculture qu'on qualifie parfois d'industrielle, qu'on peut qualifier d'une agriculture de haute technologie. Et c'est là où on en est aujourd'hui. On est à un tournant, et la question qui va se poser à tous ceux qui agissent au sein du système alimentaire et plus particulièrement aux agriculteurs, c'est pouvoir produire de manière durable, mais de produire des quantités suffisantes pour nourrir l'humanité. Et c'est pas très facile parce que l'agriculture intensive produit beaucoup, mais a des impacts. L'agriculture biologique, elle a moins d'impact, mais elle produit beaucoup moins et les produits sont plus chers. Et donc, on est à la recherche d'un nouvel équilibre et probablement que les avancées technologiques y aideront. Voilà. Et donc, on est maintenant également cette voie qui s'ouvre où peut-être que des usines vont remplacer les champs.
Finalement, après tout ce que vous venez de nous dire, est-ce que l'on peut imaginer que les usines vont finir par remplacer notre terre nourricière ?
Eh bien, écoutez, un petit peu d'histoire, ça fait toujours du bien. À la fin du 19e siècle, un grand savant, Marcelin Berthelot, qui était également ministre de l'Éducation nationale, membre de l'Académie des sciences, chimiste de formation, avait fait un grand discours à une assemblée de chimistes dans lequel il disait: dans les dizaines d'années qui viennent, on n'aura plus besoin de champs, on n'aura plus besoin d'animaux, on fabriquera dans des usines, grâce à la chimie, des petites plaquettes de produits azotés, de produits sucrés, de graisses, à partir desquelles on fabriquera nos aliments. Grâce aux chimistes, nos aliments se fabriqueront dans des usines. Alors en fait, tout ça, rien ne s'est passé. Dans les années 70, on nous disait on va se nourrir avec des pilules. En fait, un petit calcul nous montre que pour se nourrir avec des pilules, une pilule, ça fait à peu près 1 gramme, ben, il faut en avaler 350 grammes par jour. Comme il faut à peu près 15 millilitres d'eau pour avaler une pilule, le calcul montre que 350 grammes, 350 pilules, ça fait 5 litres d'eau. Donc, on démontre par l'absurde que ça ne sera pas possible. Par contre, il semble, contrairement à ce que disait Berthelot, que ce n'est pas la chimie qui va demain nous nourrir, il semble que la biologie peut-être va nous nourrir et que nos aliments vont venir de bio, sera fabriqué dans des usines dans lesquelles il y aura de très grands fermenteurs, des bioréacteurs. Donc, il n'est pas du tout impossible que dans l'avenir, l'industrie de la biologique, mais non pas de l'industrie chimique, puisse en partie subvenir nos besoins alimentaires au-delà de ce que peuvent apporter les agriculteurs et les éleveurs. Mais par contre, je ne crois pas du tout que l'agriculture et que l'élevage va disparaître. On a un tel besoin d'aliments dans l'avenir pour nourrir une population toujours croissante et qui est de plus en plus, elle est non seulement croissante, mais on sait qu'on a à peu près 800 millions de personnes qui ne mangent pas suffisamment, donc il faut nourrir bien ces 9 milliards d'humains. Et donc, peut-être que l'agriculture et l'élevage n'y suffiront pas, d'autant s'il faut prendre en compte ces contraintes environnementales, et que de ce fait, des produits alimentaires provenant de bioréacteurs mis en fonctionnement dans des usines, il est bien possible que ces aliments-là obtiennent une place croissante dans notre alimentation demain. Est-ce que ça sera 5%, 10%, 15%, j'en sais rien. Je crois qu'on peut affirmer que ça ne sera pas 100%. D'autant que l'agriculture nous joue un rôle très, très important, comme toutes les plantes cultivées sont des plantes qui fixent le gaz carbonique de l'air, l'anhydride carbonique, gaz à effet de serre, et remet de l'oxygène à la place. Et ça, c'est une fonction que ne font pas du tout les bioréacteurs dans les usines.
Apprivoiser la nature, juguler notre consommation, mettre le progrès au service d'un bien commun, aller vers une nouvelle transition alimentaire, voilà ce qui semble donc attendre notre humanité. Enfin, quand je dis « attendre », c'est une manière de parler. En réalité, pour être effectif, ces changements doivent avoir lieu dès aujourd'hui. Et c'est en cela que l'alimentation du futur est déjà celle de maintenant, par solidarité pour les générations à venir. Si vous aimez Bouffon et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Diane Le Sieur et Neila Acmi. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.